Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.
Depuis 101 ans, elle vous accompagne à chaque étape de votre journée. Elle vous informe, elle vous fait rire, elle vous apprend des choses, elle vous donne la parole. C'est la radio. Et la radio, vous le savez, j'en suis complètement gaga. Et mon invité est aussi absolument gaga de radio, c'est une grande voix de la radio. Bonjour Daniel Moreau.
Bonjour Sidonie, vous avez fait peur avec votre lancement. Depuis 101 ans, elle vous accompagne.
Mais non, vous avez beaucoup plus.
J'ai une longue carrière, mais et c'est 101 ans de carrière.
Oui,
mais
j'ai beaucoup plus. Vous avez beaucoup plus. Je suis très contente de vous retrouver, Daniel Moreau.
Moi aussi, c'est toujours un
vous
plaisir.
Vous êtes chroniqueuse télé et journaliste, chroniqueuse radio et journaliste radio. Ce média qu'on adore pratiquer et qu'on adore pratiquer aussi ensemble est né sur la Tour Eiffel, c'est quand même un symbole génial. Quand et de quelle manière, Daniel?
C'était normal, vous voyez un peu la forme de la Tour Eiffel. Il fallait chercher une antenne, il fallait la mettre très très haut. Et en fait, l'histoire de la radio, déjà la création de la radio, c'est d'abord une histoire européenne, parce que je vais vous citer Hertz, Branly, Lodge, Popov, Marconi. Donc on va en Italie, on va en Angleterre, en France. Ils se sont tous mis indépendamment, ils se connaissaient pas les uns les autres, mais ils ont tous fait une petite invention.
Ah oui.
Même une grande invention.
Chacun
par exemple,
de son côté
pour
au début.
Bell, le téléphone quand même, mais c'est la transmission, vous voyez. Donc chacun en fait a fait des inventions de son côté, et il y en a. C'est Marconi qui a réuni un petit peu tout ça et ça a donné la radio, quoi. Donc, vous voyez, c'est vraiment une histoire européenne. Et donc, évidemment, ce sont les militaires qui se sont aperçus, en fait, de comment on pouvait utiliser cet outil. Et c'est notamment le général Ferrier.
Oui.
En mai 1902, il arrive à établir une liaison avec la Martinique.
En 1902, déjà?
Ah oui, oui. Non, mais tout ça date de la fin du 19e siècle.
Ouais.
Donc, et en 1902, il arrive à établir une transmission avec la Martinique au moment de l'éruption de la montagne Pelée, où il y a eu énormément de morts, et il se rend compte vraiment de cet outil va être très très utile. Donc au début, c'est un outil utile, c'est pas encore dans la distraction, mais en 1903, ils vont se mettre d'accord avec Eiffel, qui cherche en fait à ce que cette tour Eiffel soit utile pour qu'elle soit pérenne.
Oui, parce qu'on veut la démonter après l'exposition universelle de 1889.
Exactement, une concession limitée pour 20 ans, donc il se dit, mais à quoi elle va pouvoir servir? Et ils trouvent, ils se mettent d'accord, et c'est comme ça qu'en fait, le 24 décembre 1921, ça y est, c'est un peu l'acte officiel de la radio. Et alors le premier animateur radio, c'est un sapeur télégraphiste en fait, qui ce jour-là...
C'est le nom du métier, sapeur.
Ce sont des militaires en fait, c'est eux qui vont prendre la parole la première fois et qui dit « Allô, ici poste militaire de la Tour Eiffel », et ce sont les premiers mots qu'on entend sur une radio. Et l'inauguration officielle, elle va avoir lieu le 6 février 1922. Il va y avoir Yvonne Printemps, qui est la femme de Sacha Guitry, ce sont les deux stars de l'époque, on va dire, et le père Lucien Guitry, autre star, qui va lire au micro un poème de Victor Hugo. Et voilà, ça c'est vraiment l'acte de naissance de la télé, de la radio, pardon.
Tiens, on va remonter légèrement dans le temps. En 1904, il y a un people qui est là pour assister à une expérience de retransmission de la voix.
Exactement. Alors là, c'est Marcel Proust. Marcel Proust, il y a une réunion people, on va dire, du tout Paris, avec une comtesse qui s'intéressait aux travaux d'Édouard Branly, justement.
Donc, il faut un écrivain parisien aussi.
Et voilà, c'est pour qu'on en parle un petit peu dans les réunions chics. Et donc, il y a cet essai. Et évidemment, ils sont tous complètement bluffés par cet essai. Et il va y avoir quelque chose qui va être commercialisé qui s'appelle le parlophone. Et en fait, le parlophone, on peut s'abonner. Et c'est un procédé qui permet d'avoir des retransmissions audio, bien sûr, de pièces de théâtre, d'opéra, chez soi. Donc, c'est un truc, mais complètement novateur. Donc, évidemment, les gens qui ont des moyens s'abonnent tous à ce parlophone. Et c'est aussi un petit peu l'ancêtre de la radio et du transistor qu'on pourra après avoir chez nous. On en est encore loin, bien sûr, mais ce sont les prémices.
Daniel Moreau, vous avez écrit Les enfants de la radio, c'est chez Hors Collection, donc on peut dire que la radio a sauvé la Tour Eiffel.
Ah, exactement, parce que donc en 1910, vraiment, c'était programmé la destruction, et en fait, comme on s'est aperçu que cette antenne géante, on n'en trouverait pas d'autre, on ne trouverait pas mieux, elle est restée, et on l'a encore aujourd'hui.
On continue dans cette histoire passionnante de la radio et son développement. On est en 1921, et une marque d'électroménager se lance dans l'aventure radiophonique avec ce slogan.
Qui dit radio, dit radio là.
radio-là, ouais. Avec cette petite voix vintage, là, c'est génial.
Ah oui.
Pourquoi une marque d'électroménager se met comme ça à faire de la radio?
En fait, tout simplement parce qu'ils commencent à vendre des postes, évidemment. Alors, les postes, hein, à l'époque, c'est un peu comme les grosses postes de télé qu'on connaissait. Hein,
oui,
voilà,
espèce de gros cube.
Écrans, là, donc, ouais. En fait, j'ai eu beaucoup de témoignages de gens très âgés qui me parlent de ces débuts de la radio.
J'ai eu beaucoup de radio. Non,
moi non.
Vous n'avez toujours pas 100 ans.
Toujours pas. J'ai vieilli tout à l'heure, mais je me maintiens. Et on vieillit sur France Bleu, vous savez.
Oh non,
à peine. C'est un coup de jeune sur France Bleu avec Sidonie. Et donc c'est énorme, ça trône au milieu du salon. Oui. Et les gens souvent me disaient, cette génération, on regardait la radio, quoi, parce que c'est vraiment un poste.
On était
énorme,
autour de sa radio.
Voilà, exactement. Donc, eh bien, Radio là, entre autres, vend des postes et il faut bien en faire la promo. Et la promo, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Se faire sa propre radio. Donc, le premier animateur connu s'appelle Radiolo. Hein, ils n'ont pas été chercher très très loin le nom. Et ça deviendra ensuite Radio Paris. Et Radio Paris va être tristement célèbre parce que c'était une radio de la collaboration pendant la guerre. Il y avait cette fameuse chanson Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Mais à cette époque-là, dans les années 20, c'est une radio qui distrait. Et vous savez ce que c'est le premier genre vraiment roi à la radio?
Non.
Ce sont les jeux.
Ah oui.
Ça, on a joué tout de suite dès que la radio est née. Et en 1925, notamment, il y avait un jeu qui s'appelait Avec quoi faisons-nous ce bruit? C'est Jean Nohain, grande vedette de l'époque, qui l'anime. Comme son nom l'indique, hein, c'est tout simple. Il faisait un bruit.
Voilà.
Et il fallait que les auditeurs écrivent pour dire quel était ce bruit. Vous voyez, c'était quand même tout simple et il gagnait 50 francs. Sauf qu'un jour, il verse de l'eau dans une cuvette métallique pour que les gens devinent ce que c'est.
Ouh
que
là
ce bruit.
Là, attendez, oui.
Et tout le monde, évidemment, tous les auditeurs sont offusqués parce qu'ils pensent qu'il a fait pipi en direct à la radio. Et donc, c'est le premier, on va dire, le premier bad buzz de l'histoire de la radio. Voilà. Mais c'était des jeux très simples. Et alors, il y a un autre fabricant de postes, Lucien Lévy, qui avait lancé aussi sa radio. LL, ses initiales, oui. Lucien Lévy. Et alors, lui, pareil, un jeu, son programme phare, ça s'appelait la course d'escargots. Donc c'était une course d'escargots dans le studio animée par le chansonnier Ded Rizel. Il fallait qu'il ait quand même beaucoup de bagou et d'humour pour faire vivre ça, hein, parce que c'était à la radio, c'était quand même assez improbable.
Déjà la télé, c'est très pénible les courses d'escargots.
Voilà.
Hein, bon.
Mais alors à la radio, il faut vraiment du talent pour le faire vivre. Et les auditeurs pouvaient envoyer leur pari aussi par courrier en disant c'est l'escargot A ou l'escargot B qui a gagné. Et c'était un programme vedette. Mais comme quoi,
c'est extraordinaire.
Quand il n'existe rien, tout paraît extraordinaire. Vous inventez tout, évidemment. Donc,
oui, beaucoup
voilà,
de respect
ce sont
pour
les premiers
tous
jeux.
Ces gens qui ont inventé notre radio petit à petit avec leurs super idées et surtout leur envie. Parce que pour faire de la radio, il faut être en forme et il faut avoir envie chaque jour. Saviez-vous que 6 Minutes Papillon était née dans les années 50? Notre émission préférée aurait pu s'appeler Minute Panzani, Minute Lustucru ou encore Minute Butoni. Si, je vous assure, vous allez découvrir un temps où les marques nommaient nos émissions.
Minute Papillon, on en apprend tous les jours sur France Bleu.
Votre média adoré, la radio fête ses 101 ans et pour fêter ça, vous revivez ses premiers pas, ses grandes heures. Et contrairement à ce que chantait le groupe The Buggles, la vidéo n'a pas du tout tué la radio. Danielle Moreau, vous êtes chroniqueuse radio et télé, journaliste et vous êtes passionnée de radio. Vous nous racontez ce destin extraordinaire qui n'est pas prêt de se terminer. Radio France, c'est la grande maison qui héberge tous les France Bleus de France. C'est né comment, Radio France?
En fait, c'est né le 1er janvier 1975, quand éclate l'ORTF, en 7 sociétés, dont Radio France, dont TF1, Antenne 2, FR3. Mais en fait, les radios d'État, c'est très très ancien. La première, c'est justement, on parlait tout à l'heure de la Radio Paris, la radio privée, et l'État la rachète en 1933, et ça devient en fait l'ancêtre d'une radio d'État, mais décidément, je parle de télé.
Et c'était quoi une radio d'État, comme on appelait ça à l'époque?
Pardon?
Une radio d'État, c'est quoi?
C'est une radio publique et donc du coup, 1933...
Ça ne veut pas dire qu'elle est forcément aux ordres de l'État.
Non,
quand même.
Alors après,
pas
selon
dit,
les
moi.
Ministères, là elle dépend, en fait,
à l'époque,
elle est sous
même,
la tutelle
ouais.
du ministère des PTT. Il n'y a pas encore de ministère de la communication, c'est le ministère des PTT. Et en fait, en 1934, un an après, ils perdent pas le Nord. Ce qui change, c'est qu'il va y avoir la redevance. Parce qu'il faut bien
financer tout ça.
Voilà, donc il y a la redevance et puis il y a aussi les publicités qui sont interdites, mais on essaye de contourner. Et souvent, c'est justement, je vous disais que c'était les jeux qui étaient...
Attendez, on va trop vite là.
Alors, non,
allez-y.
En fait, c'est les jeux jeux qui, c'est les marques qui offrent des cadeaux pour les jeux.
Ah, c'est une bonne idée, ça.
C'est comme ça que c'est financé, les radios d'État, en fait. Ah, c'est... Avec la redevance et les marques qui arrivent à se glisser malgré tout, malgré, parce qu'il n'y a pas de bulletin de publicité, ça, c'est interdit.
Il y a quoi comme genre de programme, ouais, alors, sur ce genre de radio d'État?
C'est vraiment, la radio d'État, c'est vraiment du service public. Mmh. C'est au service du public, mais dans l'acceptation première, c'est-à-dire qu'il y a des bulletins météo.
Ouais.
Il y a le cours des denrées agricoles, il y a la bourse, il y a des émissions religieuses, il y a même des cours d'anglais. Donc, vous voyez, on est vraiment dans l'utilitaire. Il y a des jeux quand même, un petit peu de divertissement, mais on est dans au service du public.
Ça commence à ressembler à notre radio d'aujourd'hui quand même. Et le 4 septembre 2000, c'est la naissance de votre radio préférée, le réseau France Bleu.
Depuis ce matin, voilà ce que vous entendez.
Sur France Bleu Orléans, il est 16h12.
Radio France, c'est fini. Après France Culture, France Inter, France Info, voici France Bleu.
Bleu est apparu comme la couleur préférée des Français, ce qui est vrai, et comme une couleur qui fédère. France Bleu, France Bleu.
À l'antenne, pas de bouleversement, l'auditeur va retrouver ses chroniques et ses rendez-vous habituels. En revanche, France Bleu se voudrait encore plus proche de ceux qui l'écoutent.
Archives de France 3, centre sur la naissance de France Bleu. C'est la seule radio France Bleu de Radio France qui a gardé le nom proposé par les auditeurs. Ça, c'est passionnant comme histoire.
Oui, alors France Bleu, c'est vrai que c'est un nom qui vient de loin. En fait, on est en 1964, la maison de la radio vient d'être construite.
Oui.
Et à l'occasion de ça, Roland Dordain, qui a été vraiment un grand directeur de Radio France, lance un concours auprès des auditeurs, puisqu'il va y avoir ce qu'on connaît après sous le nom France Inter, France Culture et France Musique, et il faut leur trouver.
Il y a quatre radios auxquelles il faut trouver des noms.
Et donc les auditeurs votent pour France Bleu, France Blanche et France Rouge. Et les directeurs, ils n'aiment pas ça du tout. Et Pierre Vigne, qui a été un grand directeur de France Inter, m'a fait une confidence pour mon livre, c'est qu'en fait, ils ont un peu triché et ils ont choisi eux-mêmes finalement les noms.
Alors les auditeurs ont choisi, voilà. Tu parles, c'est
exactement,
pas vrai. France Inter.
C'est un aveu qu'il m'a fait, bon, il y a prescription. Ouais. Et du coup, on a eu France Inter, France Culture et France Musique, mais il y avait France Bleu qui était dans l'air, et c'est quand même un nom qui est pas mal du tout finalement, parce que ça marche depuis longtemps, puisque donc c'est Jean-Marie Cavada, PDG de Radio France en 2000, qui a initié ça. Il s'est dit, voilà, il faut des radios locales, il y en a donc maintenant 44, hein, il y en a toujours 44,
oui, toujours.
Pas de bêtises, voilà, et Radio France et Radio Bleu, en fait, parce que Radio Bleu, c'était une des premières radios libres, on va dire, d'État, et donc bah, voilà, entre cette fusion est né le réseau France Bleu. Alors, je refais un petit point d'histoire quand même.
Oui.
En 1930, il existait déjà des radios locales. Il y avait Radio Île-de-France, il y avait Radio Toulouse. Et Radio Toulouse, il avait un speaker vedette qui s'appelait Jean Roy, qui était adoré. À un moment, il a été malade à l'hôpital. Il fallait qu'il fasse des bulletins, qu'il parle aux auditeurs, parce que les auditeurs étaient en manque. C'était une vraie star de l'époque. Et un jour à l'antenne, il dit très sérieusement, à Toulouse, il est tombé 99 flocons de neige. C'est précis, ça paraît bizarre. C'est qu'en fait, il avait confondu avec l'abréviation QQ pour quelques. Et il avait lu 99. Donc, voilà, mais il était très très populaire malgré ces petites gaffes.
C'est drôle. Qui a inventé le tout premier talk-show radio?
Bah pareil.
Dans vous avez
années...
participé à pas mal de talk-shows à la radio, notamment
ça.
Le Fou du Roi sur France Inter, le numéro.
On adore ça. C'est un genre roi en radio et en télé, bien sûr. Et en fait,
très dur à réussir.
D'abord, et c'est très très ancien. En fait, c'est pareil. On est dans les années 30 sur le Poste parisien, et c'est Mireille et Jean Nohain. Alors Mireille et Jean Nohain, ils écrivaient des chansons ensemble. Mireille les chantait. C'est une toute petite dame avec une toute petite voix, mais qui était une star de l'époque. C'est des chansons qui ont traversé le temps. Jacques Dutronc et Françoise Hardy en ont repris il n'y a pas très longtemps. Et les émissions donc s'enregistraient au 116 bis avenue des Champs-Élysées. C'était l'adresse prestigieuse du Poste parisien. Et alors, c'est juste en face du Fouquet's. Donc en fait, les invités prévus pour l'émission en début d'après-midi allaient manger au Fouquet's. Manger, boire aussi, évidemment. Donc, il y avait les digestifs, il y avait tout. Et en fait, quand ils retraversaient la rue, déjà, ils la traversaient un peu en biais. Et ensuite, ça donnait des talk-shows, évidemment, très, très libérés, on va dire. La parole s'était libérée avec les vins et les alcools. Et voilà, et c'était vraiment... Vous savez, Thierry Ardisson dit toujours qu'à sa table, il y avait, dans ces talk-shows, il pouvait très bien y avoir un évêque, une star du porno.
Ouais.
Alors, on n'en était pas là avec Mireille et Jean-Noël dans les années 30, mais ils essayaient vraiment d'avoir une star de l'aviation, un chanteur, un acteur, c'était très varié. Donc c'était vraiment l'ancêtre du talk show tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Et toutes ces histoires exceptionnelles, vous les racontez, Daniel Moreau, dans cet excellent livre publié chez Hors Collection, Les Enfants de la Radio. Vous évoquiez la publicité qui avait du mal à se frayer un chemin en radio. Donc les marques offraient des cadeaux, ça permettait de citer le nom, vous avez gagné, blablabla.
Ouais.
Ces marques ont une autre idée, celle de donner leur nom à des émissions.
Ah oui, c'était vraiment le sponsoring avant l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, une émission, il y avait beaucoup d'émissions qui s'enregistraient en public, dans des théâtres. On faisait presque de la télé à la radio, quoi. C'était vraiment. Et alors, par exemple, une émission pouvait se dérouler au Lustucru Théâtre, qui avait été rebaptisé pour l'occasion. On pouvait assister à la revue Le Sieur et entendre l'orchestre Scandale, les Gaines Scandale. Donc, alors après, il y avait des couplets c'est aussi sur des airs connus que chantaient Charles Trenet ou Édith Piaf. Alors, imaginez, je vous remets dans le. Ouais. Aujourd'hui, ça pourrait donner Kenji Girac qui chanterait Elle va mourir la mama, mais heureusement, elle est abonnée à MMA. Enfin, vous voyez, ça pourrait.
C'est pas mal.
Voilà, ça serait un peu ce genre-là. Il y avait des. Alors, les émissions portaient des noms comme ça de marques. C'est-à-dire, il y avait Les Fiancés de Beer. Ouais. Beer, c'était un vieil apéritif. Et c'était un peu le tour des manèges de l'époque. Enfin, vous voyez, pour savoir si les couples se connaissaient bien et tout ça. Donc, il y avait aussi. Alors, par exemple, Zappy Max, qui a été aussi une star des années 50 à la radio, m'avait raconté, c'était Radio Luxembourg, qu'il animait le jeu du bonheur. Du bonnet aussi est une marque. Et pour justifier le titre, il était obligé de mettre un bonnet pendant son émission. Donc tout était bon pour faire de la publicité.
Il y a même Eddie Mitchell qui, un jour, fait de la radio et le nom de son groupe est complètement rebaptisé.
C'est ça. Alors lui, il pensait avoir fait un groupe d'Europe qui s'appelait Five Rocks. Et
sur
l'antenne, il entend qu'on l'annonce Les Chaussettes Noires parce que c'était la marque Stem qui avait exigé ça. Donc
il l'a gardé d'ailleurs.
Il a été rebaptisé et exactement, il l'a gardé.
C'est génial.
Et ça allait même jusqu'à l'absurde, parce qu'il y a une émission très célèbre qui s'appelait Pour ceux qui aiment le jazz, voilà. Ben, ça a été rebaptisé Pour ceux qui aiment le gaz, parce que c'était Butagaz qui payait.
C'est génial.
C'est quand même du grand n'importe quoi.
Ouais, vraiment, aujourd'hui, on pourrait absolument
le CSA,
plus faire ça.
Ben, l'ARCOM serait passé par là.
Il y a des flash infos quasiment sur toutes les radios à heure fixe et France Bleu, évidemment, il y en a tous les jours. Qui a inventé ce concept du flash info? Fallait y penser.
Ben oui, exactement, ça paraît bête, mais en fait, ça correspond à peu près à la naissance d'Europe 1, parce que Europe 1, il faut le savoir, ça a vraiment été une radio novatrice. Ça a ringardisé Radio Luxembourg, parce qu'RTL s'appelait encore Radio Luxembourg à l'époque. On est à la fin des années 50. Et il faut savoir que donc Radio Luxembourg ne diffuse qu'un seul bulletin d'information par jour.
Ah oui.
Et c'est Louis Merlin. Alors Louis Merlin, c'est un monsieur de radio formidable, mais c'est un petit peu un traître quand même, parce qu'il était directeur de Radio Luxembourg. Il est passé à la direction d'Europe 1, donc quand Europe 1 est arrivé. Et il a fait exactement le contraire de ce qu'il faisait à Radio Luxembourg. Et ça a innové, ça a marché.
C'est ça, les génies.
Et donc, il a demandé aux jeunes journalistes d'écrire de courts bulletins qui passaient toutes les heures. Et il leur a demandé de faire vivre eux-mêmes leurs bulletins. C'est-à-dire qu'avant, les journalistes écrivaient les nouvelles et c'était un speaker, vous savez, à la voix de Stentor. Aujourd'hui, la reine d'Angleterre, faites le jubilé. Bon, ça irait encore. Mais pour toutes les nouvelles, il y avait comme ça. Et là, c'était les journalistes eux-mêmes qui venaient annoncer leurs nouvelles. Donc, les bulletins, les flashs météo, les flashs infos étaient nés.
C'est passionnant. On apprend plein de choses avec vous. Daniel Moreau est tout de suite. Vous allez nous parler de cette période. On est dans les années 90 et tout d'un coup, on a accès à la libre antenne. Attention aux oreilles.
France Bleu, Minute Papillon.
On fête la radio, elle fête ses 101 ans. La radio, c'est aussi vous donner la parole et répondre à vos questions. C'est comme sur Skyrock en 1995 où on savoure les joies de la libre antenne.
La sodomie, les odeurs de l'amour, l'amour sans pénétration, tout ça, c'est des thèmes normaux.
Bah, c'est des thèmes qui sont demandés par les auditeurs surtout.
Vous en parlez ailleurs ou juste à la radio?
Non, j'en parle partout. Enfin, plutôt à la radio, quoi, parce qu'en parler avec mes copains, mes copines, ça fout un peu mal quand même. Je sais pas, enfin, on parle d'autre chose que de la sodomie.
Et avec tes parents?
Bah, mes parents, ils sont assez cool, ils parlent de tout, mais quand on est à table, c'est sûr que c'est pas le sujet de conversation, la sodomie.
Reportage de France 2 en 1995, il y avait Skyrock, mais aussi, moi j'étais plutôt Fun Radio avec Doc et Difool. Enfin, on se souvient tous de cette libre antenne qui déboule dans nos vies. Et c'est vrai que c'était, Daniel Moreau, une ère de liberté. C'était des sujets qu'on abordait ni avec les profs, ni avec nos parents, ni avec le médecin traitant, ni avec nos amis.
Exactement.
On pouvait tout dire et tout écouter.
Ouais, pour mon livre, justement, Marc-Olivier Fogiel m'avait dit que ça avait été un bouleversement pour un adolescent comme lui qui se cherchait un petit peu, qui se sentait seul dans son cas,
sa sexualité,
qui avait créé un lien particulier avec les auditeurs. On parlait pour la première fois de choses qu'on n'osait pas aborder avec ses parents. Enfin, pour les jeunes, ça a été une révolution. Alors, il faut quand même savoir, là aussi, l'historienne qui sommeille que d'un œil en moi, la libre antenne, ça date pas d'hier. Et en fait, il y a eu vraiment une pionnière, c'est Minnie Grégoire. Et Minnie Grégoire, c'était sur RTL dans les années, à partir des années 60. Et c'était l'après-midi. C'est quand même hallucinant.
Ça ressemble à quoi?
Alors, en plus, il faut quand même juste plus, c'était une bourgeoise, c'était une sœur d'abbé. À l'époque, RTL, dans le comité de lecture, enfin pas de lecture, mais il y avait un comité d'écoute, pardon, il y avait quand même un évêque qui siégeait, donc il fallait qu'elle y aille, quoi. Et sa première émission, donc ça s'appelait Allô Ménie, son émission, dans l'après-midi, et sa première émission, elle répond à une lettre arrivée au magazine Elle sur l'éjaculation précoce. Donc voilà, en plein après-midi, elle a fait une émission sur l'homosexualité. Ça a été réalisé en direct et en public, c'était là en 71. Ça le plaît, elle a été interrompue par des manifestants. Enfin, c'était vraiment, il se passait quelque chose tout le temps avec elle. Et c'était, voilà, là, c'était une virée pionnière. Mais bon, Doc et Difool me disent que oui, ils sont les enfants de Ménie Grégoire, bien sûr.
Ah oui,
sûr, hein.
C'est-à-dire qu'ils revendiquent cette inspiration.
Bien sûr, et c'était, je vous dis encore une fois, en plein après-midi, quoi. Donc, mais c'est vrai que bon, ça a été quand même. C'est une des rares fois où un président de la République a tenu ses promesses. C'était François. Ah bah, décidément, oui, je suis fatiguée. C'était François Mitterrand. Qui avait promis de libérer les FM s'il était élu, donc, et en mai 81, il a tenu sa promesse. Mais il faut savoir que là aussi, Radio France, encore précurseur, la première FM autorisée juste avant la libération, comme ça, des vannes par François Mitterrand, c'est Radio 7, la septième station de Radio France, qui a osé, par exemple, mettre une femme aux commandes d'une matinale, et cette femme, elle s'appelait Myriam. Et Myriam Sélarié, et évidemment, pour l'antenne, elle est devenue Clémentine Sélarié. Elle animait donc une matinale dans la première FM, la première radio libre autorisée, Radio 7. Et ça se passait sur les ondes de Radio France.
C'est quoi votre petite émission Madeleine de Proust que vous adorez, vous, particulièrement dans l'histoire de la radio?
Alors, moi, j'aimais bien le Tribunal des flagrants délires. Ça n'a duré que 2 ans sur France Inter, mais c'était formidable. Et autrement,
avec Pierre Desproges, vous rappelez un peu le concept pour les auditeurs les plus jeunes?
Là aussi, c'est un classique, parce que c'est pareil. Claude Villers écoutait une émission qui s'appelait Le Tribunal dans les années 30-40, ouais. Là aussi, et c'était un procès pour rire de quelqu'un tous les jours, et il a reproduit ça sur France Inter. Et en fait, ce qui était étonnant, c'est qu'il avait tenu vraiment à ce qu'on soit comme dans une vraie salle de procès, et le juge était habillé en juge, l'avocat avait sa robe d'avocat, et donc le monsieur qui tenait les finances à France Inter, quand on lui a dit c'est pour le budget costume, il dit mais attendez, à la radio, budget costume, vous me parlez
mais
quoi?
Ça compte aussi.
Et oui, il fallait être dans l'ambiance.
Merci Daniel Moreau, c'est toujours un bonheur de vous avoir dans Minute Papillon. Vous publiez cet excellent livre, Les enfants de la radio, c'est chez Hors Collection. Chez Hors Collection, tout simplement. À bientôt.
Merci, c'est Denis.
Allez, d'autres émissions à savourer sur FranceBleu.fr. Je vous dis à demain, 14h, vous allez découvrir et savourer les secrets du camping et découvrir ce qu'il y a dans le cerveau des génies. Bonjour Frédéric Leternier.
Bonjour Sidonie, bonjour à tous.
C'est déjà demain, c'est déjà maintenant.
Oui, c'est pratiquement maintenant. On va parler des HP. Vous savez, c'est le retour de la série ce soir sur TF1 avec Audrey Fleurot. On est vraiment des millions à la suivre cette série. Bah, on se demande dans C'est déjà demain ce que ça veut vraiment dire être haut potentiel intellectuel et notamment lorsqu'on est enfant. Est-ce que c'est facile de suivre une scolarité? Ça n'a pas que des avantages, vous l'entendrez.
On vous écoute tout de suite, Frédéric.
Merci.